I'm very happy. I think it's a very nice day. Obviously, Formula One is still in my heart. In 2018, I made a decision to stop. I needed some fresh air, breathe a little bit out of the bubble of Formula One after so many 18 very demanding seasons.
Alors voilà les propos de Fernando Alonso qui commentait aujourd'hui son retour l'an prochain chez Renault. Il a dit, ça fait du bien, je suis content d'être là. Ça a fait du bien de prendre un peu d'air à l'extérieur de la bulle de la F1 et il se sent extrêmement heureux de revenir après une saison difficile en 2018. Pour commenter tout ça, Philippe Lagut est avec nous. Salut Philippe.
Salut Jérémy.
Philippe, il semblerait que 39 ans, c'est pas trop vieux pour faire un retour en F1.
Non. Ben non, pas du tout. Bon, Michael Schumacher, c'est vrai que ça n'a pas été si convaincant que ça quand il est revenu avec Mercedes, mais il ne faut pas oublier que Mercedes aussi n'était pas l'écurie qu'elle était là. Hein, ça, c'est important de ne pas l'oublier. Mm-hmm. Nico Rosberg était plus rapide que lui, mais en même temps, Nico Rosberg, pas un pied de céleri non plus. Hein? Donc, il faut relativiser ces choses-là. Mais tu sais, Alonso, là, c'est tout un pilote. Je pense que les gens ne le réalisent pas parce qu'il a été champion du monde deux fois, c'est déjà pas rien, mais ça fait longtemps. Tu sais, c'est en 2005 et en 2006. Mais Alonso, là, c'est un gars qui ne lâche jamais. Il n'y a jamais un passage à vide. Il n'y a jamais une fin de semaine où il n'est pas là. Ça arrive à Lewis Hamilton, ça arrive à Bottas, ça arrive à la plupart des pilotes. Pas lui. C'est une espèce de Brendan Gallagher. Tu sais, un gars là qui...
Qui lâche jamais.
Jamais, jamais, jamais. Mais qui, en même temps, serait le meilleur compteur de ton équipe, tu sais. C'est tout un pilote. Puis regarde ce qu'il a fait, là. Bon, ces quatre dernières années en Formule 1, là, ça a été catastrophique, là. Les trois années de McLaren avec le moteur Honda où ça n'a pas marché du tout. Et après ça, la dernière saison avec le moteur Renault où c'était à peine mieux. Lui, il a dit, bon, c'est assez, là, moi, je m'en vais, j'ai plus de fun. Lui, il s'est dit, OK, moi, je ne peux pas réécrire le livre des records en Formule 1. Là. J'ai été champion du monde deux fois. Je l'ai manqué deux autres fois par un poil avec Ferrari en 2010 puis en 2012, mais c'est beaucoup de la faute de Ferrari. Mm-hmm. Ça, il faut le dire aussi. Là. Et en plus, bon, il est trop tard, je ne peux pas réécrire le livre des records, je ne peux pas réécrire l'histoire de ma carrière en Formule 1. Mais si je veux être dans le livre des records, je peux essayer d'égaler le record de Graham Hill, le père de Damon Hill, pilote britannique qui est le seul à avoir gagné le Grand Prix de Monaco, les 500 000 d'Indianapolis et les 24 heures du Mans.
Alors, ça, on parle-tu de la triple couronne?
La fameuse triple couronne qui n'existe pas, mais qu'on appelle tous comme ça, oui, en course automobile. Les trois épreuves les plus prestigieuses. Puis en plus, Graham Hill a été aussi un double champion du monde, comme Fernando Alonso. Alors, Alonso, il partait quand même avec ça, avec les deux championnats. Il avait gagné à Monaco. À Indianapolis, à sa première année, il a failli gagner avant d'abandonner. C'est quand même pas rien. Et après ça, première tentative aux 24 heures du Mans, il gagne. Puis il a récidivé l'année suivante. Donc, il a gagné le Mans deux fois, ce qui est une fois de plus que Graham Hill. Tout ce qui lui manque, c'est les 500 000 d'Indianapolis. Il n'est pas dit qu'il ne réessayera pas de toute façon. Et il s'est même essayé au Dakar cette année. Là, t'sais. Alors, ce que j'aime aussi d'Alonso, c'est que c'est un pilote ultra polyvalent, comme les grands pilotes des années 50, 60 et 70, qui, les fins de semaine où il n'y avait pas de Grand Prix, allaient faire d'autres choses. Participer à une course d'endurance ou même des fois, il courait dans des catégories inférieures en Formule 2 ou en Formule Atlantique. On a vu des pilotes de Formule 1 venir en Formule Atlantique au Grand Prix de Trois-Rivières. Là. James Hunt, on en parle souvent, mais aussi Didier Pironi, Vittorio Brambilla, plusieurs pilotes français aussi qui étaient venus au Grand Prix de Trois-Rivières.
Mais si on regarde ça, donc va s'en aller avec Renault. Comment tu vois les voitures Renault la saison prochaine?
Ça ne sera pas fort parce que Renault, c'est une écurie de milieu de peloton en ce moment. Puis je sais pas, je sais que tu as écouté Drive to Survive. Toi, là, Cyril Abitbol, c'est-tu quelqu'un qui t'impressionne?
Moi, non.
Moi, il ne m'impressionne pas du tout. Puis dans le milieu de la F1, c'est pas le gestionnaire qui est tenu le plus en haute estime non plus. Ouais. Je suis pas certain que si ce gars-là perdait sa job chez Renault, se retrouverait un poste de manager dans une autre écurie de F1. Je suis pas certain. Alors, je suis pas certain qu'ils ont le bon gars pour ramener Renault au sommet. T'as vu, hein, ils sont allés chercher Daniel Ricciardo. Il a fait deux saisons là, puis à la deuxième, avant même le début de la deuxième, il s'est dépêché de s'en aller de là puis de signer un contrat chez McLaren. Il est encore chez Renault parce qu'il faut...
Mais McLaren, écoute, on finit quoi, 3-5 au premier Grand Prix, quelque chose comme
ça? Oui, et puis on finit quatrième l'année passée.
Des bons bolides, là. Ricardo pourra faire quelque chose avec McLaren.
Des bons bolides, mais Renault aspirait à ça aussi, là. Mm-hmm. Puis Renault, ils ont du budget, là. C'est un grand constructeur, là. Ils ont de l'argent, ils ont les ressources, ils ont tout ce qu'il faut. C'est une écurie qui a un budget de top team, là. Sont pas supposés végéter en cinquième ou en sixième place là, du championnat des constructeurs. Ils devraient être dans le top 3 ou dans le top 4. Puis ils sont pas arrivés avec Ricardo l'année passée. Ils n'ont même pas passé proche. Si ça se trouve, même avec Ricardo l'année passée, il y a quasiment eu une régression là, du côté de chez Renault. Ça n'a pas été convaincant du tout. Alors, Alonso, il y a une grosse commande sur les bras. Là.
Tu as parlé dans un de tes papiers tout récemment que c'était la nouvelle garde qui prenait la place du côté de la F1. Ouais. Et là, on ramène Fernando Alonso. Tu as parlé que c'est un bonhomme qui est compétitif. Mais est-ce que la nouvelle garde le fera passer loin derrière parce que les jeunes qui sont là, ils ont vraiment dans l'ongle?
On sait qu'Alonso, là, précédemment dans sa carrière, il a mangé littéralement deux de ses coéquipiers. Nelson Piquet Jr. chez Renault et Stoffel Vandoorne chez McLaren. Vandoorne, là, c'était pas un pied de céleri, ça non plus. Là. Il avait gagné le titre en GP2. Là. C'était un authentique espoir. Puis Alonso l'a détruit, là.
J'aime bien quand tu dis laminé. Il l'a laminé.
Ben, c'est ça. C'est vraiment ça. Il était toujours en avant de lui en qualif, toujours plus rapide que lui. Et pourtant, il était pas mal plus vieux, là. Là, c'est sûr que le coéquipier d'Alonso, c'est un gars qui s'appelle Esteban Ocon, puis lui, il est bon. Mais on ne sait même pas jusqu'à quel point il est bon. On l'a vu chez Force India déjà, avant que ça devienne
Racing Point.
Racing Point, là. Et il était l'égal de Sergio Perez, là. Puis même souvent, il était plus rapide. Alors, il a un talent fou. Hein, on parle souvent de Charles Leclerc puis de Max Verstappen comme étant les pilotes dominants de la prochaine décennie. Ocon, il ne faut pas le discarter non plus parce que c'est un excellent pilote. Alors, je ne suis pas certain du tout que Fernando Alonso va le manger tout rond. Bien au contraire. Ce qui serait intéressant, par exemple, c'est qu'Alonso, il s'en va chez Renault. Pourquoi? Probablement 2 ans, là. 2021-2022. Mm-hmm. Puis là, après ça, il va avoir 41 ans, puis probablement qu'il va dire merci, bonjour. Là. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait une passation des pouvoirs aussi, puis que Fernando Alonso prépare Esteban Ocon pour en faire le prochain champion. C'est pas irréaliste de penser ça en F1. Oui, c'est vrai que ton coéquipier, c'est ton adversaire numéro un, mais quand tu es rendu à 40 ans, puis que tu sais que tu seras pas là longtemps, là, tu n'as plus le même mindset non plus, là. On se souvient que Michael Schumacher, même lui, a été quand même assez généreux de ce côté-là avec Felipe Massa. Parce que sa dernière saison chez Ferrari, son mandat, c'était un peu ça aussi. C'était, tu sais, tu t'en vas, mais prépare-nous, Felipe, pour qu'il soit le prochain champion.
Comment on peut passer, justement, cet enseignement-là? Ça se passe, l'enseignement de devenir champion, d'être un champion?
Tu peux pas passer ton talent. Fait que si l'autre pilote, il est pas rapide, tu vas difficilement pouvoir le rendre plus rapide. Mais tu as 10 ou 15 ans ou 20 ans de plus que lui, tu peux lui faire profiter de ton expérience, par exemple. Tu peux lui donner une couple de vieux trucs qu'il y a juste un vétéran qui sait ces choses-là. Là.
Parce que l'histoire de maturité, dans le fond.
Oui. Puis, il donnait des enseignements aussi que tu as retenus au cours de ta carrière, des erreurs que tu as faites pour ne pas les répéter aussi. Mm-hmm. Puis ça, c'est précieux, ça.
C'est drôle, tu parlais de la triple couronne tantôt de Fernando Alonso. Il manquait juste les 500 000 d'Indianapolis. Il a remporté Monaco, il a remporté les 24 heures du Mans. Et ça m'a fait réfléchir à Jacques Villeneuve. Est-ce que Jacques Villeneuve, on va le voir à un moment donné, s'essayer pour les 24 heures du Mans, essayer de remporter cette course-là?
Bien, il l'a essayé avec Peugeot. Mmh. Ça allait bien, il a fini deuxième. Le problème, c'est que l'année où il a fini deuxième, à un moment donné, pendant la course, je pense que c'était pendant la nuit, je ne suis pas 100% sûr, là, mais il s'est mis à pleuvoir. Et cette portion-là, là, où il a plu, en pleine nuit, il n'était pas là du tout. Puis apparemment que la chimie entre Jacques et le reste de l'équipe, c'était pas génial au sein de l'équipe Renault. Encore là, ce sont des rumeurs, mais tu sais, Peugeot n'a pas réessayé après ça avec Jacques Villeneuve. Puis l'autre chose, c'est que Jacques Villeneuve, de toute façon, la triple couronne, il ne pourra jamais l'avoir parce que Monaco, il ne l'a jamais gagné.
Ah, oh, je pensais qu'il avait gagné.
Non.
Et c'est pour ça que la triple couronne en course automobile diffère par moment, parce qu'on parle d'être champion du monde, de remporter 500 000 d'Indianapolis et de remporter les 24 heures du Mans. Mais Monaco est la réelle triple couronne.
Oui, la vraie triple couronne, là, c'est Grand Prix de Monaco, 500 000 d'Indianapolis et 24 heures du Mans.
Donc, ça dépend à qui tu parles. si c'est Jacques Villeneuve, il dit que c'est champion du monde que ça prend.
Si, en plus, t'as été champion du monde, ben là, c'est un bonus, tu sais. Mais regarde, Mario Andretti, il a été champion du monde, il a gagné 500 000 d'Indianapolis, il a jamais gagné à Monaco. Jamais. Emerson Fittipaldi, il a été champion du monde, il a gagné Monaco, il a gagné 500 000 d'Indianapolis, mais il a jamais gagné aux 24 heures du Mans. Alors, Mario Andretti, il s'est essayé aux 24 heures du Mans. Il roulait très, très bien. Il aurait pu. Il a même roulé dans les années 60, la fameuse épopée de Ford contre Ferrari.
Oui, oui. Quel film, d'ailleurs, soit dit en passant.
Ouais,
quel film.
Que j'ai bien aimé, moi aussi, là. Mais j'ai mieux aimé Rush.
Mais ça, c'était bon. Quel bon film.
On en débattra une autre fois. Mais Mario Andretti, même s'il avait gagné les 24 heures du Mans, il n'a jamais gagné Monaco. Tu vois?
Dommage, quand tu es capable de performer à différents niveaux comme ça et tu n'as pas la petite chose qui te manque pour avoir la triple couronne, ça devient extrêmement dommage.
Monaco, c'est pas tout le monde qui est bon sur ce circuit-là. T'sais, Nelson Piquet, c'est quand même un triple champion du monde. Il détestait ce circuit-là. Il disait, c'est comme faire du bicycle dans un garde-robe. Puis tu sais, les gars, ils restent tous à Monaco. La piste, là, ils peuvent la faire les yeux fermés. Mais il y en a qui sont à l'aise avec cette espèce de petit circuit de go-kart ceinturé de muret, puis il y en a qui sont pas à l'aise du tout, du tout. Andretti a jamais fait rien qui vaille à Monaco, puis Jacques non plus. Là.
Philippe, on n'aura pas la chance, malheureusement, de se parler d'ici vendredi. Ça sera le Grand Prix d'Autriche. En fait, deuxième Grand Prix en Autriche, ça sera le week-end prochain. Si tu me disais en quelques minutes à peine, là, erreur à ne pas reproduire dans ce deuxième Grand Prix à la même place, selon toi, parce qu'il y a eu de la casse, il y a eu des problèmes mécaniques, il y a eu des pénalités. Qu'est-ce qu'il ne faut pas reproduire pour ce deuxième Grand Prix en Autriche?
Ben d'abord, c'est crucial pour Red Bull de ne pas faire les mêmes erreurs, parce que Red Bull, au Grand Prix d'Autriche, il joue à domicile. Le grand patron, le fondateur de Red Bull, c'est un Autrichien. Le circuit appartient à Red Bull. Il s'appelle d'ailleurs le Red Bull Ring. Et là, ils ne veulent pas avoir l'air d'une gang de casse de bain comme ils ont eu l'air dimanche passé. Là. T'sais, abandon de Verstappen. Après ça, Albon, impliqué dans l'accrochage avec Hamilton, c'est pas de sa faute. Mais peu de temps après l'accrochage, l'auto lâche. Hey, là, tu sais, zéro pointé pour les deux Red Bull. Ça a été un Grand Prix catastrophique pour cette équipe-là. Mm-hmm. Et je peux te garantir qu'on ne veut pas répéter cette erreur-là en fin de semaine. Mercedes aussi, là, qui essaye de rendre la gestion électronique de sa boîte de vitesse moins sensible. Hein, parce que la semaine dernière, on s'en souvient.
Fallait éviter les vibreurs.
Et puis, ça serait le fun aussi qu'Hamilton puis Vettel, s'ils sont impliqués dans des bagarres en piste qui ne s'accrochent pas avec l'autre, là. Ça serait le fun.
Ce serait le fun de voir Vettel compétitionner un peu plus. Parce que dans l'autre course, il n'était pas compétitif.
Là. Non, pas du tout. Mais il faut dire que les Ferrari, cette année, c'est une déception abyssale aussi, là, vraiment. Là. Si on réussit à finir deuxième dimanche dernier, c'est parce que Charles Leclerc a fait des miracles. Moi, ça a été ma première étoile de la course la semaine dernière.
Quel pilote quand même. Hein?
Oh, wow.
Tu m'en as parlé. Lorsqu'il est arrivé, tu m'as dit qu'il faut surveiller ce gars-là. Et j'étais pas convaincu. Puis sincèrement, on voit que c'est un gars qui a beaucoup d'agressivité, mais de l'intelligence en même temps au pilotage.
Il n'y a pas grand faiblesse. Si demain matin, je suis boss d'une équipe, puis tu me demandes de choisir entre Max Verstappen et Charles Leclerc, je vais être embêté. Je vais être vraiment embêté et je vais vraiment surtout prier très, très fort pour ne pas faire le mauvais choix.
Oui, parce que les deux sont quand même très, très bien.
Ah, vraiment très bon.
Et juste en terminant, Racing Point, les problèmes mécaniques avec Lance Stroll, on ne veut pas que ça se répète.
On ne veut pas que ça se répète non plus, mais Racing Point, du côté de Perez, ça a été vraiment une belle course, parce que si ça n'avait pas été de sa pénalité pour vitesse excessive dans les puits, Perez terminait probablement sur le podium. Alors, Racing Point, en fin de semaine, oui, il faut surveiller ça.
OK, parfait. On va voir parce que tu as dit. On a un bon bolide du côté de Racing Point. Puis là, malheureusement, pour Lance Stroll, il y a un problème mécanique, lui, qui n'a pas terminé. Après quoi, arrêté après le 20e tour?
à peu près.
Aux alentours de ça. Un très bon Grand Prix en passant.
Puis il roulait huitième, tu sais. Ah ouais, ça.
Ah non, mais là, je suis rendu, je m'en fais parler. Hey, t'as dit que c'était pas un bon Grand Prix. Je dis non, 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 c'est pas moi, c'est Philippe Lagu qui a dit ça. Non, non, c'est pas moi.
Les 10 derniers tours, c'était très bon. Okay. Avant ça,
trop d'expérience en F1, Philippe. Moi, je me suis laissé impressionner et imprimer par le premier Grand Prix de la saison.
Ah, oh, pourtant, j'étais très réceptif, crois-moi. J'étais même un petit peu en manque.
Ah oui,
Oui, j'avais hâte, là.
Bon, parfait, numéro un. Philippe, toujours un plaisir d'avoir la chance de te parler. Merci d'avoir avec nous.
Salut Jérémy.
Voilà, c'était Philippe Lagu qui nous parlait du retour de Fernando Alonso.